La fenêtre ouverte. Ma tante va descendre dans une minute, Mr. Nuttall, dit une jeune fille de 15 ans, très sûre d'elle. En attendant, il faudra essayer de me supporter. Frampton Nuttall s'efforça de dire quelque chose de correct, susceptible de dûment flatter la nièce du moment, sans indûment amoindrir la tante à venir. Plus que jamais, il doutait à part lui que ses visites protocolaires à une série de parfaits inconnus puisse contribuer pour grand-chose à la cure de repos qu'il était censé suivre. « Je sais comment cela se passera, » avait dit sa sœur, quand il se préparait à émigrer vers cette retraite rurale. « Tu vas t'enterrer là-bas et tu n'adresseras la parole à âme qui vive, et l'ennui aggravera encore l'état de tes nerfs. Je vais juste te donner quelques lettres d'introduction pour toutes les personnes que je connais dans ce coin. Pour autant que je me souvienne, certaines étaient fort sympathiques. » Frampton se demandait si Mrs. Sappleton, la dame à qui il présentait une de ses lettres d'introduction, faisait partie de cette catégorie. « Vous connaissez beaucoup de monde dans notre voisinage ?» demanda la nièce, lorsqu'elle jugea que leur communion silencieuse avait assez duré. « Pratiquement personne, » dit Frampton. « Ma sœur a séjourné ici, au presbytère, il y a environ 4 ans, et c'est elle qui m'a donné des lettres d'introduction pour quelques personnes de la localité. » « En ce cas, vous ne savez quasiment rien sur ma tante. »« Seulement son nom et son adresse, » admit le visiteur. Il se demandait si Mrs. Simpleton était mariée ou veuve. Un je ne sais quoi dans l'atmosphère de la pièce suggérait une présence masculine. Sa grande tragédie s'est produite il y a 3 ans, sans doute après la visite de votre sœur. « Sa tragédie ?» demanda Frampton. « Dans ce coin de campagne reposante, » les tragédies semblaient quelque peu déplacées. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous laissons cette fenêtre grande ouverte par une après-midi d'octobre, dit la nièce en indiquant une grande porte-fenêtre qui donnait sur une pelouse. Il fait très bon pour l'époque de l'année, dit Frampton, mais cette fenêtre a-t-elle quelque chose à voir avec la tragédie? C'est par cette fenêtre, voici 3 ans jour pour jour, que son mari et ses 2 jeunes frères sont sortis pour faire leur partie de chasse. Ils ne sont jamais revenus. Alors qu'ils traversaient le marécage pour gagner leur terrain favori de chasse à la Bécassine, tous 3 ont été engloutis dans une tourbière très dangereuse. Il avait beaucoup plu cet été-là, vous savez, et des endroits qui étaient sûrs les autres années s'affaissaient sans crier gare. Et le pire, c'est qu'on n'a jamais retrouvé leur corps. À ce moment, la voix de l'enfant perdit de son assurance et se fit fragilement humaine. La pauvre tante pense qu'ils reviendront un jour, eux et le petit épagnol brun qui a disparu avec eux, et qu'ils rentreront par cette fenêtre tout comme ils en avaient l'habitude. Voilà pourquoi on laisse désormais la fenêtre ouverte tous les jours jusqu'à la tombée de la nuit. Pauvre chère tante, elle m'a souvent raconté comment ils étaient sortis, son mari avec sa veste imperméable sur le bras, et Ronnie, son plus jeune frère, qui chantait « Betty, pourquoi sautes-tu ?» comme toujours pour la taquiner, parce qu'elle disait que ça lui tapait sur les nerfs. Quelquefois, savez-vous, par des soirées calmes, tranquilles comme aujourd'hui, j'ai comme l'impression, et cela me fait froid dans le dos, que tous vont revenir et passer par cette fenêtre. Elle s'interrompit avec un léger frisson. Ce fut un soulagement pour Frampton quand la tante entra dans la pièce d'un air affairé et se confondit en excuses pour avoir tardé à paraître. « J'espère que Vera a su vous divertir, » dit-elle. « Elle a été très intéressante, » dit Frampton. « J'espère que la fenêtre ouverte ne vous gêne pas, » dit Mrs. Sappleton d'un ton alerte. « Mon mari et mes frères vont revenir d'une minute à l'autre de la chasse et ils rentrent toujours par là. Aujourd'hui, ils sont partis chasser la bécassine dans les marais et ils vont me mettre mes tapis dans un bel état, typique de vous autres hommes, pas vrai ? » Elle poursuivit son gai babillage à propos de la chasse et de la rareté des oiseaux, et des perspectives de la chasse aux canards l'hiver prochain. Pour Frampton, c'était l'horreur absolue. Il fit un effort désespéré, qui ne fut que partiellement couronné de succès, pour porter la conversation sur un sujet moins macabre. Il se rendait compte que son hôtesse ne lui accordait qu'une parcelle de son attention, et que son regard l'abandonnait sans cesse pour se reporter sur la fenêtre ouverte et la pelouse au dehors. Qui lui fait sa visite en ce tragique anniversaire était à coup sûr une malheureuse coïncidence. Les médecins sont d'accord pour m'ordonner de prendre un repos complet, d'éviter toute excitation et tout ce qui pourrait impliquer un exercice physique violent, annonça Frampton, qui, comme beaucoup, s'imaginait à tort que de parfaits inconnus et des connaissances fortuites sont avides de connaître les moindres détails concernant vos ennuis de santé et vos infirmités, leurs causes et leurs traitements. Pour ce qui est de mon régime, leur accord n'est pas si unanime, ajouta-t-il. « Vraiment ?» dit Mrs. Sappleton, dont la voix ne remplaça un bâillement qu'à la dernière seconde. Puis une attention alerte l'illumina soudain, mais pas en réponse à ce que disait Frampton. « Enfin les voilà » s'écria-t-elle, « juste à l'heure pour le thé, et crottés jusqu'aux yeux comme il fallait s'y attendre. » Frampton eut un léger frisson et se tourna vers la nièce en lui lançant un regard qui se voulait plein de charitable compréhension. L'enfant regardait fixement l'embrasure de la fenêtre ouverte, les yeux pétrifiés d'horreur. Le choc glacé d'une crainte indéfinie le fit se tourner dans la même direction. Dans l'obscurité croissante du crépuscule, trois silhouettes traversaient la pelouse en direction de la fenêtre. Tous portaient un fusil sous le bras, et l'un d'eux était en outre chargé d'une veste blanche drapée sur ses épaules. Un épagneul prend leur collet au talon. Ils approchaient sans bruit de la maison, puis une jeune voix rauque entonna « Dis-moi, pâté, pourquoi sautes-tu ?» Frampton saisit frénétiquement sa canne et son chapeau. La porte du hall, l'allée de gravier et le portail ne furent que des étapes floues, à peine entrevues dans sa fuite précipitée. Un cycliste qui roulait sur la route dut se jeter dans un buisson pour éviter une collision imminente. « Nous voici de retour, ma chère, » dit le porteur de l'imperméable blanc en entrant par la fenêtre. « Plutôt crotté, mais la boue est presque entièrement sèche. » « Qui était ce type qui est sorti comme une flèche alors qu'on arrivait ?»« Un homme tout ce qu'il y a de plus bizarre, un certain Mr. Nuttall, » dit Mrs. Sappleton, « qui ne savait parler que de ses maladies et qui est parti à toute allure sans un mot d'adieu. On croirait qu'il a vu un spectre. » « Je pense que c'était l'épagneul, » fit calmement la nièce. « Il m'a raconté qu'il avait horreur des chiens. Un jour, il a été poursuivi dans un cimetière, quelque part sur les rives du Gange, par une meute de chiens parias. Et il avait dû passer la nuit dans une tombe fraîchement creusée, avec ses bêtes qui grondaient, grimaçaient et écumaient juste au-dessus de lui. Assez pour détraquer les nerfs de n'importe qui. » Les fictions improvisées était sa spécialité.